À chacun son voyage, de Carole Détain. Suite du chapitre Fou de Bassan. Oui, je comprends, disait Huguette à Maude. À chacun son voyage, de Carole Détain. Suite du chapitre Fou de Bassan. Oui, je comprends, disait Huguette à Maude, du temps où son téléphone ne se volatilisait pas immanquablement au plus mauvais moment. « Je comprends, » développait-elle pour réconforter son amie. « Ce n'est pas facile pour toi. Ton mari travaille encore. » Ses propos signifiaient que Thibault était absent dans la journée et que la vie de Maude serait éventuellement plus douce s'ils étaient ensemble. Ah bon, s'était dit Maude, traversée par l'étrange sensation d'être incomprise, même par Huguette, si affectueuse et si proche par ailleurs. On me voit donc ainsi, du moins Huguette, avec cette unique perspective qu'il me reste devant moi, mon avenir, celui d'attendre simplement la retraite de Thibault. Huguette rapprochait sa situation de celle de tant d'autres personnes qui s'acheminent vers la vieillesse. Vide existentiel ou angoisse métaphysique n'était pas retenu dans cette image renvoyée par son amie. Maud irait mieux si elle vivait du matin au soir avec Thibault. Maud renonça, sur le moment, à expliquer sa différence, vaincue, sur le moment, par la difficulté gigantesque d'être comprise, totalement et en transparence. Elle baissa les bras, ce matin-là, au téléphone. Ses propos signifiaient que Thibault était absent dans la journée et que la vie de Maude serait éventuellement plus douce s'ils étaient ensemble. Ah bon ? S'était dit Maude, traversée par l'étrange sensation d'être incomprise, même par Huguette, si affectueuse et si proche par ailleurs, on me voit donc ainsi, du moins Huguette, avec cette unique perspective qu'il me reste devant moi, mon avenir, celui d'attendre simplement la retraite de Thibault. Huguette rapprochait sa situation de celle de tant d'autres personnes qui s'acheminent vers la vieillesse. Vide existentiel ou angoisse métaphysique n'était pas retenu dans cette image renvoyée par son amie. Maud irait mieux si elle vivait du matin au soir avec Thibault. Maud renonça, sur le moment, à expliquer sa différence, vaincue, sur le moment, par la difficulté gigantesque d'être comprise totalement et en transparence. Elle baissa les bras ce matin-là, au téléphone. Puis après tout, pourquoi pas, se demanda-t-elle, après quelques secondes qu'ils s'écoulèrent les unes après les autres, au même rythme, toujours le même, imperturbable. Pourquoi la vision d'Huguette ne serait-elle pas en partie juste? En quel honneur serais-je donc différente? Et pourquoi demanderais-je plus ou mieux que les autres, qui prennent de l'âge, tout comme moi? Les paroles d'Huguette, des cailloux, qui tombaient dans un lac, en troublaient la surface calme et liquide. Des vagues circulaires se formaient, puis elles disparaissaient, l'eau redevenait miroir. Maud ne savait toujours pas, un mois après son retour à Paris, si l'idée des balades en roller serait judicieuse ou si elle ne se réduirait pas à une banale illusion de plus. Elle avait écrit en septembre le récit de ses vacances à Kerbihan. Il serait le sujet d'un futur roman qu'elle retravaillerait plus tard. Elle avait participé chaque semaine à de nombreux ateliers d'écriture. L'ambiance du groupe favorisait l'expression rapide et spontanée de ses idées. Entraînée par ce premier élan, elle poursuivait ensuite plusieurs heures dans les trains. C'était ainsi qu'elle construisait ses romans. Elle écrivait pendant quelques semaines un texte spontané de premier jet, le récit de ses dernières vacances, et elle renouait ensuite le reste de l'année avec sa véritable vie quotidienne de travail artisanal. Elle retravaillait alors lentement et laborieusement ses textes. Une année correspondait à environ un mois d'écriture libre et continue et 11 mois de lissage et polissage. Elle n'avait pas cessé d'écrire depuis son retour de Kerbihan. Elle attrapait au vol, en atelier, puis dans les trains, le flux de ses souvenirs. Elle ne put donc, faute de temps, pratiquer sa nouvelle activité parisienne censée remplacer les bords de près et devant arrière tirés au large de la grande plage de Kerbihan. Impatiente et curieuse, elle était pourtant allée l'un des premiers jours de septembre, place de la Bastille, et elle avait acheté une magnifique paire de rollers. Elle l'avait essayée et avait vite mesuré son notable manque d'équilibre. Elle devait demeurer prudente. Elle s'était inscrite à une série de cours collectifs hebdomadaires pour débutants. Les cours auraient lieu sur l'esplanade de la Bastille et sur les quais de Seine voisins. Il lui faudrait peut-être un an pour maîtriser ses imprévisibles et rapides roulements à billes. Elle pratiqua en attendant, alors qu'elle n'avait pas encore entamé son récit de vacances, une activité de substitution. Elle prit sa trottinette, non pas en guise de transport comme à son habitude, mais gratuitement, pour le plaisir, libérée de son volumineux sac à main empli de pulls, ordinateurs, papier, bouteilles d'eau et stylos, sans désir, cela va sans dire, de la moindre performance sportive. Elle prenait l'air. Elle trottinait vers le bois de Vincennes. Le trajet était un peu plus long que ses parcours accoutumés qui gagnaient, en règle générale, la station de métro la plus proche. Elle atteignait une tranquille vitesse de croisière. Elle appuyait en douceur sur son pied droit, puis sur son pied gauche. Elle contemplait le ciel et les arbres. Elle humait l'air et écoutait de la musique classique. Elle y revenait au projet qu'elle avait pour un temps caressé à Kerbihan. Rien ne l'empêchait de prendre un lecteur de CD avec elle. Le chien l'accompagnait, il en avait besoin, personne dans la famille ne prenait soin de le sortir. Elle ne l'oubliait pas, il avait droit lui aussi à sa part de bonheur. Elle ne fit qu'une seule fois l'aller-retour jusqu'au bois de Vincennes en trottinette avec Jean-Sébastien Bach dans les oreilles. Elle fut ensuite occupée par son récit de vacances. Le clavecin et les violons dessinaient d'amples spirales ascendantes sur les variations répétées de thèmes liturgiques. Des familles pique-niquaient dans des clairières. Les chênes déployaient leurs hautes silhouettes et leur feuillage déjà roux sur un ciel pâle et gris. Maude croisait des chiens en laisse, des joggeurs et des joueurs de tennis. Des entrelacs de branches lui rappelaient les tableaux d'Odile, une artiste assidue de l'atelier des peintres. Cette femme, silencieuse et discrète, recréait sans répit les ombres des sous-bois. Ses toiles évoquaient la vivante fraîcheur des taillis forestiers. Telle fut son unique expérience de voile parisienne. Elle avait, pendant un mois, fait courir sur le papier son stylo qu'elle aurait aimé voir directement branché sur les neurones de son cerveau. Elle allait reprendre sa vraie vie quotidienne et se demandait si ses futures navigations sur un mode parisien lui seraient dans la durée tout aussi bénéfiques. Elle réussirait probablement à retravailler ses textes 2 ou 3 heures par jour dans les trains ou dans les autobus à sa façon, systématique et artisanale. L'atelier des peintres ne la soutenait plus autant. Elle aurait le loisir ensuite de s'adonner à son activité de plein air. Elle appela un beau matin d'octobre Caroline, l'une de ses amies, après qu'elle eut repris son travail systématique de réécriture. Maud sollicitait cette amie lorsqu'elle achevait l'un de ses chapitres. Elle le lisait alors sur son répondeur. Caroline l'écoutait au moment qu'elle jugeait le plus opportun. Elle pouvait aussi choisir de l'effacer sans en prendre connaissance. C'était ainsi convenu entre les deux amies. Maud lui envoyait plus tard, par mail, la version écrite du chapitre. Caroline la lisait si elle le souhaitait. Peu importait à Maud que son texte fût ou non lu ou écouté. Le seul fait d'appeler Caroline l'aidait et elle trouvait le courage de continuer. Caroline, quant à elle, avait commencé à écrire le roman de sa vie après avoir rencontré Maud. Elle en avait rédigé les premiers chapitres et elle en avait conçu le plan d'ensemble avec un groupe de camarades du temps où elle était lycéenne. Elle avait ensuite cessé de l'écrire, mais elle avait continué à l'imaginer. Elle l'avait rêvé toute sa vie, parce que une vie n'est que rarement drôle et palpitante, mais au contraire plus souvent qu'à son tour engluée dans une discrète forme d'ennui. Caroline s'était ainsi construit un équilibre en tant que salariée, en tant qu'épouse, en tant que mère, fille, sœur, belle-fille, et dans d'autres rôles encore. Elle avait voyagé dans une autre vie. Il lui était arrivé d'être visiblement triste lors d'une cérémonie de mariage, par exemple, car elle assistait dans le même temps dans son imagination à des funérailles d'êtres aimés. La situation inverse s'était également produite à l'occasion. Caroline atteignait la soixantaine et elle avait imaginé au fil des années une vaste saga romanesque en diable. Une jeune galloise, pauvre, fine et cultivée, fille de pasteur, émigrait sur le continent dans les années 1880 afin de n'être plus une charge pour ses parents. Elle devenait préceptrice d'une jeune fille aristocrate, fière et hautaine, et de sa plus jeune sœur, incapable d'étudier, toujours dehors, parmi les chevaux et les chiens. Elle mesurait l'abîme, infranchissable au XIXe siècle. Des classes sociales. Des vies se croisaient, l'ample récit se poursuivait sur des décennies, la jeune préceptrice connut un amour passionné et romantique qui dura toute sa vie. Caroline avait enfin entrepris, poussée par Maud, d'écrire noir sur blanc son roman. Elle y passait des journées entières. Patiente et perfectionniste, elle travaillait le style aussi longtemps qu'il le fallait. « Je pense à mon livre, disait-elle, et je manque de temps. Dès que j'ai un moment, j'écris sur mon ordinateur ou bien je reprends mes vieux cahiers ou mes anciennes notes. Mon livre est devenu essentiel dans ma vie, comme un mur porteur dans une maison, un mur de soutien, un mur de béton. » Elle ajoutait, avec un sourire entendu, le sourire de celle qui a atteint à sa façon une forme de sagesse, qu'elle pourrait mourir le jour où elle l'aurait terminé. Elle ne larmoyait pas, elle blaguait même plutôt. Le risque n'était pas bien grand d'atteindre, dans un proche ou lointain avenir, le terme de son livre. Elle travaillait pendant des heures le style de ses textes qu'elle voulait impeccable. Elle ne pouvait écrire que lentement et l'histoire qu'elle avait en tête était dense et foisonnante, une généreuse épopée familiale et sociale qu'elle avait eu le loisir, tout au long de sa vie, d'étoffer et d'enrichir. Il lui restait pléthore de travail à abattre avant de songer à la fin de l'ouvrage. Elle disait à Maud qu'elle pourrait mourir quand elle en aurait terminé. Elle disait aussi qu'elle se sentait plus vive et plus joyeuse depuis qu'elle s'était attelée à cette considérable tâche. Écrire lui suffisait. Elle ne voulait pas montrer son travail tant que son livre ne serait pas terminé. « Il sera peut-être lu, disait Caroline après ma mort, par une ou deux personnes. » Et elle souriait de la même façon, sage et fataliste. Seule Maud découvrait ses chapitres les uns après les autres. Elle lui disait son admiration, elle l'encourageait. Les deux amies avaient échangé quelques nouvelles ce matin-là, avant que Caroline n'abandonne son répondeur à Maud. Le fils unique de Caroline, un ingénieur informatique de plus de 30 ans, quittait enfin l'appartement familial. Caroline ne lui connaissait pas de petite amie et il emménageait seul dans son studio du 15e arrondissement. Du moins, sa mère le supposait. Elle trouvait qu'il n'avait pas l'air malheureux, mais il était si réservé, si discret et si sage apparemment qu'elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Maud, de son côté, lui parlait de ses incertitudes. « J'espère être un peu moins inquiète cette année, lui disait-elle. » Elle lui racontait les différentes étapes de sa réflexion. Elle lui disait comment, partant de la voile, elle était arrivée au roller, en passant par la musique classique et le patin à glace, et aussi comment, tout à fait récemment, elle avait même abouti à la trottinette. Ce dernier rebondissement n'était apparemment pas bien original, puisqu'elle était depuis longtemps une adepte de ce moyen de transport, mais Maud lui donnait, pour qu'elle comprenne, tous les détails de sa quête personnelle, dont le but était de lutter contre la tristesse. « Vois-tu, lui disait-elle, j'arrive à la trottinette, mais ce n'est plus la même, plus celle d'avant, c'est une trottinette maintenant quasiment... contemplative, une trottinette de combat en réalité contre le vide existentiel. » Elle expliquait à Caroline, qui, pour sa part, aimait à marcher dans Paris. La marche faisait partie de sa vie. Elle favorisait son équilibre. « Glisser ou rouler ne me tenterait pas, disait-elle à Maud. Je préfère garder les deux pieds sur terre, les deux pieds bien campés sur le sol et la marche pour toi. Qu'en dirais-tu ? » « C'est une idée, répondit Maud. Oui, pas mal. Tu as raison. » Les deux activités, la trottinette, la marche, étaient en effet indéniablement proches. D'où la réponse de Maud qui, globalement, allait dans son sens, quoique, par-devers elle, elle préférait la glisse, la vitesse sans effort comme la voile, elle aimait mieux, la marche beaucoup moins, mais enfin elle verrait, elle y serait peut-être obligée parfois dans certaines circonstances, pourquoi pas, à voir. Et ceci est la fin du roman « À chacun son voyage » de Carole Détain, publié chez The Book Édition. en mars 2019. Merci pour votre écoute. Mon mail est caroledetain, tout attaché, en minuscule, @gmail.com.